France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, question sur la vaccination contre la grippe saisonnière. La campagne débute aujourd'hui même. Le gouvernement a décidé de l'avancer de quelques jours pour les personnes éligibles. Pour les résidents des EHPAD, elle a même commencé dès lundi. Alors pourquoi un tel empressement alors que la grippe n'a que peu sévi l'hiver dernier? C'est ce que l'on va voir ce soir avec nos invités. Ce sera l'occasion de répondre à toutes vos questions sur ce vaccin contre la grippe, sa fabrication, son efficacité, les techniques utilisées. On parlera aussi de la troisième dose du vaccin contre le Covid qui concerne pour l'instant sensiblement les mêmes personnes que celles à qui l'on conseille le vaccin contre la grippe. Alors, faut-il faire les deux injections en même temps ou faut-il au contraire les espacer? Faut-il craindre en l'absence de vaccin des contaminations croisées? Faut-il vacciner des personnes plus jeunes et quid des soignants? Avec nous pour vous éclairer ce soir, deux invités. Le professeur Bruno Lina, qui est virologue aux Hospices Civils de Lyon, chercheur au CIRI, le Centre International de Recherche en Infectiologie, membre du Conseil Scientifique, donc bien placé pour évoquer tous les aspects des deux maladies, le Covid et la grippe. Bonsoir Bruno Lina.
Bonsoir.
Vous êtes en direct du studio de Radio France à Lyon. Merci au passage à nos amis lyonnais pour cette liaison à distance. À mes côtés ici en studio, docteur Marie-Laure Albi. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes généraliste à Paris. Vous allez donc devoir répondre toutes les questions de vos patients également sur ces deux vaccins. Merci à nos invités qui sont prêts à répondre à toutes vos questions. Alors n'hésitez pas à appeler le standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et pour commencer, nous partons à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Retrouvez Roland. Bonsoir Roland.
Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Oui, je voulais poser une question très simple et très pratique. Mon épouse, comme moi-même, nous avons l'intention de nous faire vacciner contre la grippe et également de recevoir la troisième dose de vaccin contre le Covid. Ce matin, mon épouse a fait une réservation auprès de son médecin pour le vaccin contre la grippe et ensuite elle est allée sur santé.fr pour obtenir un rendez-vous pour la vaccination troisième dose contre le Covid. Elle a pu se faire inscrire, mais parmi les préconisations qui figurent sur les messages de Doctolib, il est écrit que la vaccination ne pourra avoir lieu que s'il n'y a pas eu d'autres vaccins dans les 15 jours qui précèdent la date prévue. Et ça me paraît en contradiction totale avec ce qui nous est dit par ailleurs, c'est-à-dire que, notamment que les deux vaccins peuvent avoir lieu en même temps. D'où ma question, est-ce qu'il y a une anomalie qui serait nécessaire de corriger sur Doctolib?
Voilà, alors, question. On va voir. Merci beaucoup, Roland, pour cette question. On va voir s'il faut corriger ce qui est écrit sur Doctolib. En attendant, je vais demander au professeur Bruno Lina si ces deux vaccinations doivent se faire en même temps, si c'est conseillé, pas conseillé. Qu'est-ce qu'on répond à Roland, Bruno Lina?
Alors, on répond à Roland qu'il a parfaitement raison. C'est-à-dire que il est dit aujourd'hui que la recommandation est, dans la mesure du possible, de pouvoir faire les deux vaccins en même temps. Alors, le message qui est sur Doctolib, en fait, est un message qui est un petit peu ancien et qui n'a pas été mis à jour, où pendant toute une période de vaccination contre le coronavirus, on a demandé à ce que cette vaccination soit faite à distance des autres, de façon à pouvoir faire une investigation propre du risque de voir apparaître des effets secondaires liés à ce vaccin. Vous comprenez bien que si on fait deux vaccins en même temps et qu'on a des effets secondaires, on ne sait pas lequel des deux vaccin est responsable de l'effet secondaire. Donc là, grâce à l'expérience accumulée tant au niveau français qu'au niveau international sur l'utilisation du vaccin coronavirus et l'expérience que l'on a sur le vaccin contre la grippe chez les personnes de plus de 65 ans, on sait que cette précaution aujourd'hui n'est plus utile et donc il est possible et même recommandé de faire ces deux vaccinations le même jour, donc je le confirme.
Mais en quoi c'est recommandé, Bruno Lina? Alors, en quoi est-ce que ce serait un bénéfice?
Alors, c'est un bénéfice parce que, au bout du compte, et vous l'avez dit vous-même en introduction, ces vaccins vont vers les mêmes personnes. Hein, c'est-à-dire que c'est les personnes qui ont plus de 65 ans ou qui présentent des comorbidités ou une situation clinique qui fait que ils sont plus à risque de faire des formes graves. Je pense aux obèses, je pense aux hypertendus, je pense à tous ceux qui ont une pathologie cardiaque et je pense aux femmes enceintes. Et donc, dans la mesure du possible, Si on peut faire la protection contre ces deux pathogènes au cours du même acte de vaccination, eh bien, on gagne du temps et on protège les personnes les plus fragiles, ce qui permet aussi, en aval, de protéger la structure de soins. Donc, c'est pour cela que cette vaccination couplée, finalement, fait partie... alors, recommandation, c'est peut-être un terme qui est un peu excessif, mais en tout cas, des préconisations.
Et une injection dans chaque bras ?
Oui, une injection dans chaque bras. On évite d'une manière générale, enfin, le médecin généraliste qui est à côté de vous vous le dira, on évite de faire deux injections dans le même site lorsqu'on fait deux administrations de vaccins en même temps. En général, on le fait sur deux sites différents. Donc, ça peut être effectivement dans chacun des deux deltoïdes.
Merci beaucoup, professeur Lina. Docteur Marie-Laure Albi, moi j'ai une petite question par rapport à ce que nous disait Roland. Parce qu'il a cherché en fait deux rendez-vous différents. Un chez le médecin et un autre rendez-vous pour la vaccination contre le Covid. Or désormais, le médecin généraliste peut très bien faire les deux. Vous êtes équipé pour, non ?
Alors, équipé pour, il faut qu'on ait les injections, et c'est en cours de distribution. Effectivement, un médecin généraliste peut avoir soit des doses, soit des flacons qu'il reconstitue lui-même. Après, ça dépend des organisations locales et de la surcharge du médecin. Il y a des organisations différentes selon les endroits. Et on peut dire à cette dame qu'elle peut, même si c'est à quelques jours de distance, faire la démarche dans deux endroits séparés, si c'est plus simple comme organisation. Et il y a même la possibilité pour les centres de vaccination, selon le dernier recommandation gouvernementale, que les centres de vaccination fassent les deux injections à condition que la personne se présente avec son injection. Mais si cette dame préfère que son médecin généraliste fasse son injection et que le médecin n'a pas eu livraison des flacons ou ne vaccine pas parce qu'on ne peut pas tous vacciner selon la surcharge des consultations, elle peut parfaitement faire les deux actes le plus rapproché possible, mais même s'il y a quelques jours, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est la démarche, c'est-à-dire savoir que la protection vaccinale qu'on a pu obtenir en France a protégé la population, du moins...
Vous parlez de Covid, là.
Oui, mais le Covid, c'est encore plus ennuyeux d'attraper à la grippe par-dessus. Il y a eu peu de grippe l'année dernière, et donc ça veut dire que l'immunité collective qui existe, me semble-t-il, Monsieur Lina le confirmera, pour la grippe est un peu moins bonne. Et c'est la démarche vaccinale qui est encouragée, et pour simplifier les choses, comme on doit bien être vacciné les plus de 65 ans et les catégories énoncées tout à l'heure, autant faire la démarche d'un coup et être bien protégé pour l'hiver qui arrive.
On repart au standard de France Inter, on va à Lyon retrouver Pascal. Bonsoir Pascal.
Bonsoir à tous.
Alors j'ai cru comprendre que vous n'êtes pas forcément très convaincu par le vaccin contre la grippe, vous ?
Oui, je vais être bref pour éviter le blabla. Est-ce que nous ne sommes pas devenus esclaves des vaccins au profit de l'industrie pharmaceutique ?
Merci pour cette question Pascal, j'imagine que vous n'allez pas vous faire vacciner, si ?
Vacciné, mais j'ai même reçu un quatrième vaccin qui est celui contre la consommation et la bêtise humaine.
Merci.
Et là, je rigole.
Merci beaucoup, Pascal. Je crois qu'on a compris votre question. Bruno Lina, dites-nous l'intérêt de se faire vacciner contre la grippe. Marie-Laure Albi disait il y a un instant, il n'y a pas eu de grippe la saison dernière. On n'est pas forcément immunisé. C'est une des raisons.
En fait, la grippe est une espèce de maladie un petit peu sournoise qui vient tous les hivers, sauf l'hiver dernier, mais on peut expliquer pourquoi, et qui atteint les plus fragiles et est responsable d'une mortalité qui est quand même significative. On peut pas nier l'existence de l'épidémie de grippe, et on voit à quel point les EHPAD, on voit à quel point les établissements médico-sociaux et nos seniors sont touchés par cette maladie. Dit, mais il n'y a pas que. La vaccination contre la grippe, on a montré, quand je dis on, c'est des études scientifiques faites au niveau international, ont montré qu'elle permettait de réduire la mortalité, de réduire les formes graves, mais ça n'est pas un vaccin qui présente une efficacité qui est au niveau de ce que l'on observe avec le vaccin contre le coronavirus.
C'est quoi ? C'est 40 à 60% d'efficacité en gros, c'est ça ?
Alors, en fait, il faut quand même regarder de près ce qu'on mesure en termes d'efficacité, parce que les calculs d'efficacité vaccinale et les pourcentages que vous donnez, qui sont justes, sont contre l'infection clinique, hein, mais pas forcément contre les formes graves et contre les décès, où le niveau de protection peut être un petit peu plus élevé, de la même façon que ce que l'on mesure avec le vaccin contre le coronavirus. On sait que ça protège mieux contre les formes graves, où on est encore avec des niveaux de protection supérieurs à 90%, que contre le risque de réinfection, où on peut avoir des infections, je dirais, simples à coronavirus qui arrivent chez les vaccinés. Mais ça réduit le poids de cette grippe et très clairement on a un bénéfice collectif à être immunisé contre la grippe, et on a un bénéfice individuel. Donc c'est aussi du point de vue de santé publique un acte un peu citoyen que de se vacciner contre la grippe, et c'est une action à la fois collective et individuelle, et j'insiste beaucoup sur cela, parce que on a trop souvent tendance à minimiser l'impact de la grippe. C'est quand même une maladie qui chaque année arrive à induire entre 5 et 14 000 décès en fonction des hivers. Et comme vous l'avez fort justement dit, l'année dernière, ce virus n'a pas circulé. Ça ne signifie pas forcément qu'il va circuler de façon extrêmement intense cette année. Mais en tout cas, on est dans une situation un petit peu plus fragile que d'habitude vis-à-vis du risque grippe. Et donc, à partir du moment où on a un vaccin, eh bien, c'est dommage que de ne pas utiliser cette ressource pour réduire l'impact du virus de la grippe.
J'ai une question un peu bête, professeur Lina, mais je suis sûre que vous allez pouvoir me répondre. On nous explique toujours qu'on fabrique le vaccin contre la grippe saisonnière à partir du virus de l'année précédente. Donc, s'il n'y a pas eu de virus l'année précédente, on fait comment? On fabrique à partir de quoi?
Alors, il y a, au niveau français, il y a eu très peu de virus qui circulent. Mais à l'échelle planétaire, le virus a continué à circuler dans les zones intertropicales. Il a été détecté en Afrique, il a été détecté en Asie, et ce qui nous a permis d'avoir un niveau de circulation du virus qui montrait que ce virus était toujours présent dans les zones qui correspondent aux zones en quelque sorte réservoirs, parce que là-bas, l'épidémie de grippe est toute l'année. Il n'y a pas de pic épidémique comme dans les pays tempérés, où c'est uniquement pendant l'hiver. Là, c'est toute l'année, et grâce au réseau de surveillance, on a été capable de suivre les différents virus de la grippe et donc d'actualiser la composition du vaccin, qui se fait à la lumière des virus qui circulent. Et comme le réservoir est là, les représentants qui ont été choisis sont les représentants des virus qui circulent. Alors c'est vrai que le temps de préparer le vaccin, eh bien, ce choix se fait 6 à 8 mois avant le début de la campagne de vaccination, et parfois donc 10 à 12 mois avant la réalité de l'épidémie, mais c'est impossible de faire mieux. Et tant qu'on aura des vaccins tels qu'ils sont fabriqués aujourd'hui, il y a peut-être des perspectives avec de nouveaux vaccins, eh bien, on sera avec ce décalage de quelques mois qui, parfois, peut poser un problème, mais parfois n'en pose pas.
Sur l'intérêt de cette vaccination, docteur Marie-Laure Albi, c'est vrai qu'on depuis 2 ans, 1 an et demi, disons, on est dans le Covid. Ça veut dire qu'on n'a quand même pas intérêt à minimiser la grippe. L'année dernière, beaucoup de gens se sont fait vacciner. Il y a même eu presque une pénurie de doses. Cette année, vous conseillez malgré tout à vos patients d'aller se faire vacciner?
Bien sûr, et comme j'ai vacciné largement contre le pneumocoque, mais on n'a pas répondu à la réflexion de notre auditeur.
Sur l'industrie pharmaceutique.
Voilà, je pense que M. Lina a exposé la mobilisation mondiale autour des problématiques virales, qui a été bien évidemment spectaculaire et renforcée pendant le Covid. Mais néanmoins, je précise que je n'ai aucun lien d'intérêt avec aucun laboratoire. Comme je dis toujours, le vaccin, ça me prive de travail finalement, puisque on n'a pas besoin de soigner les gens, ou moins. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a une nécessité, effectivement, que les gouvernements négocient bien les contrats, et que effectivement les gens qui fabriquent des vaccins fassent les profits nécessaires pour continuer recherche et production, puisque c'est quand même un bien commun. Par contre, c'est vrai qu'il faut qu'il y ait un vrai travail et approfondi, à la fois pour que ce soit accessible à des pays qui n'en ont pas. On a bien vu les problématiques des pandémies, douloureusement pour le Covid, mais c'est vrai pour d'autres maladies. Et d'autre part, que effectivement les profits soient raisonnables. Par contre, je pense qu'il ne faut pas non plus tirer tout le temps sur l'industrie pharmaceutique, qui nous apporte des armes et des médicaments, des vaccins qui permettent quand même d'améliorer considérablement l'état de santé de la population et de aussi travailler. On a quand même une vaccination du Covid un peu inespérée qui a montré ses effets, qui sont incomplets, mais qui protège quand même bien la population contre des formes très graves.
Pour rebondir effectivement sur la question de Pascal et l'industrie pharmaceutique, Bruno Lina, juste une petite parenthèse sur le vaccin contre la grippe saisonnière. Je crois qu'il y a 3 produits différents qui sont vendus sur le marché français. Certains fabriqués, alors là pour le coup en France ou pas ?
Oui, 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 absolument. En fait, il y a 2 vaccins qui sont fabriqués par Sanofi et un autre qui est fabriqué, ça y est, j'ai oublié le nom, vous me prenez par surprise.
Non, mais...
Et ces 3 vaccins donc ont strictement la même composition en termes de types de virus qui sont présents dedans. Il y a juste un vaccin qui a une composition dite à haute dose, qui est un vaccin qui est nouveau et qui est proposé essentiellement aux personnes de plus de 65 ans, parce qu'on s'est rendu compte que ces personnes répondaient moins bien à la vaccination contre la grippe. Et lorsque l'on augmente la dose de l'immunogène, c'est-à-dire du produit qui induit la réponse immunitaire protectrice, eh bien on arrive à avoir une protection qui est augmentée de façon assez significative. Donc c'est pour ça qu'on a ces différents vaccins qui sont très similaires, avec juste la différence de ce vaccin haute dose qui est réservé aux personnes de plus de 65 ans.
Pascal est au bout du fil, il est à Courbevoie. Bonsoir Pascal,
bonsoir.
Bienvenue,
on
vous écoute.
Donc j'ai 63 ans, mais il y a d'autres personnes dans mon cas qui ont 50 ans, qui se sont fait vacciner au mois d'avril.
Alors quel vaccin ? Covid, hein ? On est d'accord ?
Covid, oui, personnellement je suis déjà vacciné contre la grippe. Donc qui se sont fait vacciner au mois d'avril pour deuxième dose, Pfizer notamment. Donc ça fait 6 mois. On nous dit que normalement, actuellement, la vaccination pour la troisième dose n'est ouverte que pour les plus de 65 ans et peut-être pour le personnel médical. En conséquence, et que par ailleurs, on entend que les centres de vaccination se tournent un petit peu les pouces parce que tout le monde ne se rue pas pour avoir sa troisième dose. Donc la question est de savoir, premièrement, est-ce qu'il faut vraiment que l'on retravaille comme au début d'année de la dernière, c'est-à-dire que l'on fasse d'abord les 65 ans, les plus de 50 ans, etc., etc. Et dans ces cas-là, peut-être que l'on sera vacciné après 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois. Donc, est-ce que le 6 mois est important de latence? Est-ce que l'on peut attendre 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois avant d'avoir la troisième dose pour que celle-ci soit efficace?
Merci Pascal pour cette question. On va demander à Bruno Lina peut-être de répondre.
Oui, c'est une bonne question. Hein. Donc, en pratique, les personnes les plus fragiles, alors on a mis un seuil à 65 ans, et à chaque fois, je dis toujours la même chose, il se passe rien de magique dans la nuit de votre 65e anniversaire, mais c'est un âge où on sait que lorsque l'on fait une infection avec le coronavirus, ou lorsque l'on fait une infection avec le virus influenza d'ailleurs, on est plus à risque de faire des formes sévères que les moins de 65 ans. La deuxième chose, c'est qu'on s'est rendu compte que chez les personnes les plus fragiles, les plus âgées, l'immunité que l'on arrive à développer à la suite de cette vaccination, elle est de très haut niveau, mais elle a tendance à baisser. Et la protection clinique, c'est-à-dire le fait qu'on observe éventuellement des infections chez les vaccinés, semble être plus fréquent à partir de 6 mois chez les personnes les plus âgées de plus de 65 ans, et notamment les plus de 80 ans. Donc c'est dans ces conditions où en même temps on a pu regarder que le taux d'anticorps était quelque part relativement corrélé, même si de nouveau on n'a pas de corrélat de protection. Hein. N'utilisons pas la sérologie pour dire si on est protégé ou pas. Mais ce que l'on a observé, c'est que les plus âgés avaient des taux d'anticorps qui étaient particulièrement bas, et que lorsque l'on faisait cette troisième dose, ce rappel vaccinal, ils retrouvaient des taux d'anticorps extrêmement élevés, et surtout ils retrouvaient une protection qui était de nouveau restaurée. Et ça, c'est très clair pour les plus âgés. Mais par contre, chez les plus jeunes, et ceux qui ont 63 ans sont plus jeunes, eh bien on ne voit pas cette baisse de protection. Et ce que l'on fait aujourd'hui, c'est on regarde dans des études de surveillance clinique de réapparition des infections et des formes graves pour voir si justement au-delà des 6 mois, au-delà des 8 mois, on revoit apparaître ces formes graves. Et pour l'instant, la réponse est non. Donc les personnes qui ont été vaccinées il y a 6 mois, moi j'ai été vacciné il y a 8 mois, eh bien aujourd'hui il n'y a pas de raison de les revacciner parce qu'on n'a pas de signal nous disant que on est en train de perdre notre protection. C'est une mesure qu'on est capable de faire aujourd'hui. Si ça se trouve, dans deux mois, autour de ce même micro, je viendrai vous expliquer que on a finalement des données scientifiques, des données de surveillance qui nous disent qu'effectivement, il faut faire ce rappel vaccinal. Mais pour l'instant, nous n'avons pas ce message. Et donc, on commence par vacciner les plus fragiles.
Et on continue d'apprendre en marchant. Une question qui nous arrive sur franceinter.fr, c'est Marianne à Annecy, qui dit « Si l'on attrape la grippe et le Covid simultanément, risque-t-on une forme très grave de l'un ou l'autre, ou des deux à la fois, docteur Marie-Laure Albi ?» Est-ce qu'on peut, alors, écoutez, difficilement répondre pour l'instant si,
ça, c'est un peu difficile de distinguer, en fait, sauf à être hospitalisé avec des prélèvements viraux complets, parce que les signes cliniques de la grippe sont les mêmes que ceux du Covid du moment départ. Bon, après, on peut toujours cumuler les emmerdements, hein, comme on dit, mais je pense que, évidemment, que si on a deux virus en même temps, je pense qu'on a plus de risques, mais après, c'est difficile à calculer et à imaginer. Mais ce qui est sûr, c'est que la double vaccination est à conseiller dans tous les cas, parce que vraiment, elle protège contre les deux qui peuvent, en cas de malheur, se faire en même temps, mais il faudrait avoir pas de chance pour attraper les deux en même temps quand même.
Une question aussi sur franceinter.fr d'Isabelle, si c'est un acte citoyen de se faire vacciner contre la grippe, comme cela vient d'être dit, pourquoi la vaccination n'est-elle pas gratuite? Alors je vous pose d'abord la question, Marie-Laure Albi.
Alors elle est gratuite pour toutes les personnes de plus de 65 ans, pour une grosse partie des professionnels de santé, et on a élargi le cercle à un certain nombre de spécialistes et à un certain nombre de professionnels de santé. En revanche, elle n'est pas bien chère quand même. La boîte, ça valait 7 ou 8 euros, donc elle est accessible. Par contre, le mois qui vient, il a bien été demandé de vacciner en priorité les personnes exposées. Ça a été un peu triste l'année dernière, parce qu'il y a vraiment des gens qui n'ont pas été vaccinés, alors qu'ils vraiment ils en avaient besoin. Donc je pense que ce mois-ci, il faut laisser les personnes de plus de 65 ans, les malades, les gens qui ont des recommandations ou des affections de longue durée, se faire vacciner, parce que c'est vraiment eux qui risquent le plus en attrapant la grippe.
Mireille est dans le Vaucluse. Elle attend au bout du fil. Bonsoir Mireille.
Oui, bonsoir.
Bienvenue. On vous écoute, bon, Mireille.
J'avais deux questions en fait. La première, c'était sur quoi vous basez-vous pour dire qu'il y a une innocuité à injecter simultanément les deux vaccins, c'est-à-dire celui de la grippe et le rappel du Covid, notamment avec le vaccin qui est super renforcé, qui contient 60 microgrammes d'antigène par rapport aux autres qui en contiennent que 15, si je parle du vaccin de la grippe. Et d'autre part, que dire d'injecter une troisième dose de rappel à des gens qui auront des taux d'anticorps élevés, parce qu'effectivement, on sait que c'est très variable d'une personne à l'autre, et qu'on fait des moyennes. Moi, ça me perturbe, effectivement, de dire il faut une autre dose sans savoir où on en est au niveau de son immunité.
Merci Mireille pour ces deux questions. Professeur Bruno Lina vous répond.
Alors, à la première question, c'est sur la base de l'expérience de ce qui a été acquis comme information dans d'autres pays, où ces co-administrations ont déjà été faites et sur un nombre important de personnes, et où on a pu voir qu'il n'y avait pas d'augmentation des effets secondaires par rapport à ce qui était observé classiquement. Donc c'est vraiment une donnée qui n'est pas simplement théorique, mais qui est aussi mesurée dans le cadre d'études qui ont été faites, notamment aux États-Unis. Concernant la troisième dose et le rappel vaccinal, il y a une chose qui est très importante à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas définir sur la base d'une valeur de taux d'anticorps mesurée chez quelqu'un si cette personne est protégée ou pas. Ça s'appelle un corrélat de protection, c'est-à-dire ça existe pour un certain nombre de pathogènes où on sait que si vous avez un certain taux d'anticorps mesurable dans le sang, il n'est pas la peine de vous revacciner puisque vous êtes protégé. Et inversement, si vous êtes en dessous de ce seuil, il est nécessaire de vous revacciner parce que vous n'êtes plus protégé. Sur le Covid, on ne sait pas mesurer ce taux d'anticorps. On ne sait pas s'il y a un seuil qui permette vraiment d'être protégé. Il y a des études en cours qui commencent à donner quelques informations, mais on n'est pas suffisamment précis. En revanche, ce qu'on observe, c'est que cliniquement, les données de surveillance nous montrent que les personnes les plus fragiles, lorsqu'elles sont au-delà de 6 mois après la vaccination, elles ont un risque d'infection et d'infection avec des formes graves qui est augmenté. Donc c'est beaucoup plus sur la base d'observations cliniques que sur des mesures biologiques que l'on est capable de dire qu'il est nécessaire de faire cette troisième dose chez les plus fragiles. Et le jour où on aura, de nouveau vous le disiez, parce qu'on aura appris en marchant et qu'on le saura, un seuil qui nous permettra de dire sur la base d'un taux d'anticorps, vous êtes protégé, c'est pas la peine de vous revacciner, à ce moment-là, on utilisera ces corrélats de protection. Mais pour l'instant, nous ne les avons pas.
Direction Nancy, où nous attend Francis. Bonsoir Francis.
Bonsoir et bonsoir à vos invités et aux auditeurs. J'aime beaucoup les études statistiques. On a trois études statistiques disponibles en France qui comparent 2020, donc avant la vaccination, et les années précédentes au niveau de la mortalité. Et je veux rassurer vos auditeurs, si vous aviez moins de 65 ans, vous êtes moins mort en 2020, on a eu moins de morts attendues en 2020 en dessous de 65 ans que dans les années précédentes. Donc il n'y a pas eu d'épidémie mortelle pour les moins de 65 ans. Ma question est, depuis 50 ans, on dispose également aujourd'hui de données intéressantes, depuis 50 ans, on vaccine de plus en plus contre la grippe. Quelle est la proportion, ou ma question c'est, la proportion de décès de la grippe a-t-elle baissé depuis 50 ans, 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans, alors qu'on vaccine de plus en plus contre la grippe. J'ai une réponse.
Merci Francis pour ces deux questions que je vais soumettre à Bruno Lina. D'abord sur la mortalité récente, est-ce qu'on peut répondre à Francis ?
Oui, enfin, les chiffres sont ce qu'ils disent, hein. C'est-à-dire que effectivement, lorsque l'on regarde la surmortalité mesurable à l'occasion de la crise du coronavirus, cette surmortalité, elle a touché essentiellement les plus de 65 ans et même, je dirais plus, encore plus les plus de 80 ans. Donc, on n'est pas tous égaux devant ces virus et c'est bien pour ça qu'il y a des recommandations vaccinales et un souci de protection des plus fragiles pour que l'on freine cette mortalité induite par ces virus. Maintenant, les statistiques, vous savez, elles sont très utiles, mais il n'empêche qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main le fait qu'il y a eu aussi des décès chez les plus jeunes, parce que c'est aussi ce qu'on a observé. Ça peut être moins marqué que ce que l'on voit avec les plus âgés, mais quand même, de façon significative, il y a eu une surmortalité qui a été observée dans les tranches d'âge des 40-60 ans aussi. Alors, la deuxième question est une question extrêmement pertinente. C'est-à-dire qu'on vaccine depuis 50 ans. Est-ce que, quelque part, on a des outils qui nous permettent de dire, soit par la statistique, soit par des études, que cette vaccination a permis de réduire de la mortalité ? Eh bien, la réponse est apportée par le biais d'études qui sont faites chaque année. Parce qu'en fait, les épidémies de grippe ne se ressemblent pas. Et ce que l'on peut dire, et c'est un travail qui a été fait par Santé publique France, c'est que, en moyenne, avec la vaccination contre la grippe, telle qu'on l'a fait chaque année, avec des taux de vaccination où on a à peu près 50% des personnes fragiles qui sont vaccinées, donc il y en a 50% qui ne le sont pas, eh bien, la partie qui est vaccinée, on observe une sous-mortalité de l'ordre de 3 à 4 000. Donc, on peut objectivement dire, et c'est de nouveau des données de Santé publique France, que la vaccination contre la grippe permet d'économiser 3 à 4 000 décès chaque année.
Et qu'elle est quand même efficace. Je voudrais rebondir sur la question de la mortalité liée à l'âge et vous poser la question, docteur Marie-Laure Albi. On sait que pour ce qui est du Covid, il reste une partie des plus âgés qui ne sont pas vaccinés. Comment faire pour les atteindre? Parce que c'est pas forcément qu'ils ne le souhaitent pas, c'est parfois il y a d'autres facteurs. Alors, qui entrent en ligne de compte.
On n'a pas découvert ça aujourd'hui. On travaille depuis déjà plusieurs mois, même 6 mois, pour faire ce qu'on appelle de l'aller vers. C'est-à-dire qu'à partir des centres de vaccination, notamment, en tout cas ce que je connais à Paris, mais je crois que c'est pareil ailleurs, avec l'aide des collectivités locales, avec surtout l'action de l'assurance maladie, on va vers ces personnes, on les appelle, on leur trouve des rendez-vous, et même on va à domicile pour les vacciner. Mais vous imaginez bien
que c'est une organisation complexe qui nécessite et qui a nécessité une mobilisation très importante de toute une série de d'administratifs, de professionnels de santé. Et on va continuer, parce qu'effectivement, il y a des gens, ils sortent pas de chez eux, enfin, ils ont personne pour les aider.
Et le médecin généraliste est quand même bien placé pour,
oui, mais
pour le savoir.
Oui, mais c'est pour ça, il le signale, il va lui-même vacciner quand il peut, mais jusqu'à peu, l'organisation de la vaccination en ville était quand même contingentée et pas si simple. Ça se développe, il y a beaucoup plus de vaccinations qui se font en ville, mais aller vers les gens à leur domicile, c'est une opération qui est coûteuse en temps, en personnel, et donc ça prend beaucoup plus de temps que d'avoir des vaccinations en centre où on pouvait vacciner 150 personnes par jour dans le 14e assez facilement quand c'était nécessaire.
Paris, hein, je précise,
ouais, quand c'était nécessaire, en sachant qu'on a quand même arrivé à un taux de vaccination à Paris qui est quasiment de 90%, mais il reste quelques milliers de personnes à aller chercher et nous y travaillons tous avec un soutien de l'assurance maladie qui même les appelle, prend les rendez-vous, nous les signale puisqu'on peut les recevoir dans nos cabinets. Donc je pense qu'il faut dire que c'est un gros travail et qu'il faut le continuer pour les premières, les deuxièmes doses et les troisièmes doses.
Christine nous appelle également ce soir et a une question. Bonsoir Christine.
Oui, bonsoir. D'abord, je voudrais dire que moi, je vais faire le vaccin anti-grippe comme je le fais depuis 40 ans, sans aucun problème. Je vais le faire la semaine prochaine, le 29. J'aime bien le faire un peu tard. Mais je vais faire mon vaccin, mon boost de Covid à la fin du mois, enfin en décembre, parce qu'en fait, je vais être à 6 mois après 2 AstraZeneca. Et je suis étonnée, là, je vais le faire chez mon médecin. Pourquoi est-ce qu'on met à la poubelle, en gros, le Moderna, le vaccin Moderna, que je devais faire chez mon médecin, il m'avait précisé que je faisais ce vaccin-là avec Moderna et qu'effectivement, il va faire un Pfizer. Et je voudrais savoir pour quelles raisons, en fait, on préfère maintenant Moderna à Pfizer, alors qu'on est quand même dans deux vaccins qui sont les deux BioNTech et que en fait, c'est uniquement des histoires de laboratoire.
Merci pour cette question, Christine. Professeur Bruno Lina.
Alors, les deux vaccins de Pfizer et de Moderna sont tous les deux des vaccins ARN messager, donc ils utilisent la même technologie, mais ils sont pas exactement faits de la même façon. Il y a des procédés de fabrication, des modifications des ARN pour que justement ils se dégradent assez rapidement et qu'ils ne soient pas trop irritants en quelque sorte, qui ont été faits de façon différente et en termes d'immunogène. Et en pratique, ce qu'on a observé, c'est que lorsque l'on faisait des vaccinations Moderna de façon répétée, il y avait un risque d'effet secondaire un petit peu plus important. Et donc, pour améliorer la tolérance, il a été décidé d'utiliser préférentiellement le vaccin Pfizer. Et c'est pour ça, et c'est pas une décision purement française, puisque c'est une décision aussi qui est en cours de discussion au niveau de l'Europe, où on se rend compte que sur la base de données de pharmacovigilance, hein, on nous demande d'être vigilant sur ces vaccins, c'est légitime. Eh bien, on a des informations qui nous disent que finalement, en termes d'effets secondaires, il en est moins observé avec le Pfizer qu'avec le Moderna, et il semble que l'immunité qui est conférée par ce vaccin, par ces deux vaccins, soit strictement identique. Donc, on réduit le risque d'effets secondaires. Donc, on favorise plutôt Pfizer.
Merci pour ces explications, professeur Lina. On va prendre un tout dernier appel. C'est Sylvie qui est au bout du fil. Bonsoir, Sylvie.
Oui, bonsoir. Voilà, ma question porte sur la troisième dose de Covid et je voudrais savoir pourquoi l'assurance maladie n'envoie pas un courrier aux personnes concernées, parce qu'on sait que la troisième dose, ça marche pas très bien. Et moi, par exemple, j'ai un père qui est une personne âgée qui n'est pas du tout hostile à la vaccination et qui ferait une troisième dose s'il comprenait un peu ce qu'il faut qu'il fasse. Mais il comprend pas très bien les messages qui sont donnés et certainement d'avoir un courrier qui lui dirait c'est le moment, allez-y, il faut le faire, bah, ça marcherait bien.
Merci,
il est peut-être pas le seul dans ce cas.
Merci beaucoup Sylvie pour cette question. Docteur Marie-Laure Albi, est-ce que c'est prévu que l'assurance maladie contacte les gens comme pour la grippe
saisonnière
à ces âges-là?
Absolument, je pense qu'il y a peut-être un petit retard dans là où habite cette auditrice. Moi, mes patients ont reçu, même très tôt, la troisième dose, ils sont précipités, alors même qu'ils n'étaient pas forcément éligibles à ce moment-là. Je pense que l'assurance maladie, il faut souligner, a fait un travail considérable et peut-être que le courrier n'est pas arrivé, mais il a été envoyé aux personnes éligibles à la troisième dose. Il y a une deuxième situation, c'est peut-être que ce n'est pas encore le moment pour cette personne. Je ne sais pas s'ils ont envoyé les lettres à tout le monde en même temps ou s'ils ont respecté le délai de 6 mois. Mais en tout cas, elle peut dire à son père que c'est tout à fait utile de le faire 6 mois après la deuxième injection et que même s'il n'a pas de lettre, il n'hésite pas à se faire vacciner par son médecin, son pharmacien ou dans le centre de vaccination à côté.
Voilà, valable pour le père ou pour la mère. Question Bruno, Lina, à propos de cette troisième dose. On sent une tentation peut-être du côté du gouvernement d'utiliser cette troisième dose dans le cadre du pass sanitaire. Est-ce que le conseil scientifique dont vous faites partie y réfléchit ? Est-ce que ce serait une solution pour inciter à la troisième dose ?
C'est une question très compliquée et qui est très politique. Vous savez que dans ces conditions en général, je dis que je n'étant pas décideur, je n'ai pas de position là-dessus.
Joker.
La seule chose que je peux vous dire, oui, c'est Joker. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans le contexte actuel où on a un virus qui présente un potentiel de transmission très élevé, où on a une perte des anticorps protecteurs et de la protection observée chez les plus fragiles, ce délai de 6 mois entre les doses est un moment qui permet de remettre une protection de très haut niveau pour les plus fragiles. Donc c'est vraiment très important de le faire. Voilà, en termes de protection individuelle, c'est vraiment très important de le faire. Après, est-ce que ça doit être inscrit dans le pass sanitaire ou pas ? Ça n'est pas à moi de le décider.
Toute dernière question, et là vraiment on va conclure en 10 secondes, c'est Sylvie à Rouen qui nous demande, est-ce que le virus, compte tenu de ce qu'est le virus du Covid, la vaccination ne va pas devenir ce qu'elle est pour la grippe saisonnière, c'est-à-dire un rappel chaque année ?
On verra.
Professeur Lina ?
C'est une question très difficile. Hein. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de la durée de l'immunité chez les personnes. Hein. Qu'est-ce qui va se passer après cette troisième dose ? Est-ce qu'on aura encore des anticorps de façon durable ou pas ?
On verra.
Est-ce que le virus qui circulera à ce moment-là sera encore protégé par cette vaccination ? Voilà, autant de questions auxquelles on ne peut pas répondre pour l'instant. Donc on verra.
Chaque chose en son temps.
Et faites ta troisième dose.
Voilà, merci beaucoup. Merci professeur Lina. Merci docteur Marie-Laure Albi. Merci à tous de nous avoir appelés. Désolé pour les messages que nous n'avons pas eu le temps de faire passer. Merci encore une fois à nos confrères de Radio France à Lyon. Juste après les informations de 20h, Patricia Martin, leur philo. Ce soir, le philosophe Guillaume Durand.